Au menu cette semaine, la mise en scène de nos vies 2.0. Nous parlerons aussi de la rentrée des médias, l'urgence de combattre la loi 59, et puis si on a le temps, quelques petites brèves. Si vous êtes sage. Bonjour, mon nom est Jean-Philippe Rousseau, vous écoutez le radioblog de Québec Presse saison 1, épisode 2. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Ah, malheureusement, j'aurais aimé commencer par un sujet plus léger. Parler des élections fédérales, par exemple, et de Justin... Oh, stack. J'allais dire Justin Bieber. Non, Justin Trudeau, lapsus révélateur, soit dit en passant. Donc, c'est ça, j'aurais aimé commencer par un sujet plus léger. Malheureusement, l'actualité nous rattrape souvent et nous arrive comme une tape dans la gueule. Déjà la semaine dernière, lors de la première émission, on avait parlé du drame qui s'était déroulé sur la liaison du Thalys entre Amsterdam et Paris, drame qui aurait pu se finir dans un bain de sang sans l'intervention des passagers américains. Cette semaine encore, je dois revenir sur un événement terrible, celui qui s'est passé en Virginie, l'assassinat en direct d'Alison Parker et d'Adam Ward. Je ne vais pas revenir sur l'événement en tant que tel. On en a beaucoup parlé dans les médias, dans la presse écrite. Vous savez ce qui s'est passé. Je ne vais pas non plus parler du port d'armes aux États-Unis. Généralement, après ce genre d'événement, les passions se déchaînent, que ce soit chez les pros ou les anti. Peut-être que dans une prochaine émission, je vous parlerai de mes opinions sur le sujet. Mais je n'ai pas envie d'en parler aujourd'hui. Vraiment pas. J'ai envie de vous parler de quelque chose de différent, quelque chose qui m'a un peu choqué, qui m'a frappé, qui m'a choqué presque autant que l'événement en tant que tel. C'est de la façon dont le meurtrier s'est mis en scène. Il s'est mis en scène lui-même, mais il a mis en scène son meurtre. Et c'est quelque chose qui... Non, qui n'est pas nouveau. C'est vraiment pas nouveau, puis je vous expliquerai pourquoi c'est pas quelque chose qui est vraiment nouveau. Mais c'est quelque chose qui, je trouve, est symptomatique de notre société. Notre société où on se met en scène. Et je vais vous parler, je vais faire le parallèle avec une émission d'un podcasteur québécois que je trouve très bon, qui est assez connu, en tout cas dans les réseaux sociaux et dans le web 2.0. Je veux parler de Sylvain Grandmaison. Sylvain Grandmaison a un podcast qui s'appelle Le Québec en balado-diffusion, qui est un très bon podcast. Si vous vous intéressez un peu aux médias sociaux, mais pas juste à ça, de la musique, il y a aussi de la bière, il parle de bière souvent. Sylvain Grandmaison, je pense que c'était au début du mois d'août, a fait une émission sur les fameuses 15 minutes de gloire d'Andy Warhol. Andy Warhol, il y a quelques décennies, avait parlé du fait que, dans le fond, on recherchait tous et puis on allait tous, à un moment donné, accéder à ces 15 minutes de gloire. C'est sûr qu'à l'époque, il n'y avait pas les médias sociaux. C'est sûr qu'à l'époque, il n'y avait pas Twitter, Facebook, il n'y avait pas YouTube. Et que la société a profondément changé. Et que j'ai l'impression que beaucoup, beaucoup de nos semblables font la course à ces 15 minutes de gloire. Et idéalement, au fait aussi que ces 15 minutes puissent durer un peu plus longtemps que 15 minutes. Je vous explique. Sylvain, dans son podcast, nous dit d'ailleurs que, par exemple, sur Facebook, on va s'exposer sous notre meilleur jour. Beaucoup de monde vont prendre 150 selfies, puis ils vont choisir minutieusement la meilleure photo, qui souvent, ils vont passer dans différents filtres, soit sous Photoshop, soit même dans des applications dédiées qui vont corriger des défauts automatiquement et puis les poster sur Facebook. On va rarement parler d'affaires plates. C'est sûr que 15h54, j'ai fait une brassée, c'est pas très vendeur. J'ai mal à l'orteil, non, on va pas non plus en parler. On va plutôt dire qu'on a passé une superbe soirée avec plein d'amis, on est super populaire. On a été dans un super restaurant très classe, très chic, dans le Vieux-Montréal ou au centre-ville. Puis on va prendre en photo des plats super fancy, puis on va en être fier. Puis c'est normal, tout le monde fait un peu ça. On a envie d'intéresser nos amis, notre public. Et c'est sûr que pour intéresser du monde, on va pas parler d'affaires qu'on trouve déjà nous-mêmes insignifiantes. C'est pas en parlant de ça qu'on va intéresser le monde. Mais inconsciemment, on se transforme. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, depuis le fait que ça soit l'ado de 15 ans et jusqu'à la matante de 70 ans, on utilise tous Facebook, on y est tous, et puis on veut, on veut se mettre en scène presque, inconsciemment. On veut montrer le meilleur de nous-mêmes. Il y a les réseaux sociaux. On peut rajouter aussi là-dedans les téléréalités. Le devenir vedette instantanée, il y a des gens, pas tout le monde, Dieu merci, mais il y a beaucoup de jeunes en particulier qui sont à la recherche de cette reconnaissance. Pour eux, devenir une personne adulée, reconnue, c'est comme un avancement social. À l'époque de nos parents, de nos grands-parents, l'avancement social, c'était par l'effort, le travail. Aujourd'hui, on veut faire un show. C'est ça, on veut faire un show. Évidemment, la plupart des gens comme vous et moi, j'imagine, on voit plus les réseaux sociaux comme un complément. Maintenir un lien avec des gens qu'on ne voit pas souvent, par exemple, avec la famille éloignée, par exemple. On aime faire des jokes, alors on poste des jokes sur Facebook, par exemple. Il y en a d'autres qui voient ça différemment. Le meurtrier de Alison Parker puis d'Adam Ward, comment qu'il s'appelle ? Ça n'a pas d'importance. On retient souvent le nom d'ailleurs des criminels. Concentrons-nous sur ceux des victimes, pour une fois. Lui, il est arrivé avec son cellulaire. Il a filmé la scène. Je pense que c'était un cellulaire. Mais de toute façon, les cellulaires aujourd'hui sont filmés en HD, là. Donc ça n'a pas une grande importance. Il arrive d'abord sur place, il était donc informé du lieu où seraient ses futures victimes. Il a créé un compte YouTube pour l'occasion, il a créé un compte Twitter pour l'occasion, donc il savait ce qu'il allait faire avec ce qu'il était en train de filmer, et il a filmé la scène. Mais là où ça devient très pervers, c'est qu'il a attendu que la caméra soit sur Alison Parker pour la tirer. Il voulait vraiment que ça paraisse, le drame soit vu par, je sais pas c'est quoi, l'audience du canal WDBJ7 en Virginie, là. j'imagine que c'est au moins des milliers de personnes et que il voulait que ça soit l'image de l'assassinat en direct à la télévision. C'était quelque chose qui était pour lui importante. Il a stagé ça, il a mis en scène son meurtre et après il a posté ses vidéos sur YouTube et sur Twitter. Waouh, c'est le crime 2.0 où on se sert des réseaux sociaux pour montrer l'horreur. Pourquoi je disais que c'est pas quelque chose de nouveau, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Cette année, particulièrement en 2015, mais ça a commencé déjà l'an passé, on voit de plus en plus des horreurs en vidéo. Je veux surtout parler de tous ces films qui sont postés par ISIS, hein, l'État islamique, où on va voir les gens être égorgés en direct. On va voir des gens noyés en direct, immolés en direct, immolés par le feu évidemment, vivants. On va voir les pires horreurs en direct. Et un peu comme le meurtrier, l'assassin de Alison Parker et d'Adam Ward, l'État islamique met en scène tout ça dans un but bien précis, c'est de terroriser l'Occident. Ça a toujours été, c'est la base du terrorisme, c'est d'abord terroriser la population civile. Quel était le but? Est-ce que le but de Flanagan, j'ai retrouvé son nom, le meurtrier, était aussi de nous terroriser? Je pense pas. À mon avis, c'était plus quelque chose de purement vicieux. Mais c'est là où on voit les dérapages par rapport aux réseaux sociaux. Et je dis pas que c'est à cause des réseaux sociaux qu'on a ça. Hein. C'est devenu, la vidéo est devenue juste un instrument supplémentaire à l'horreur. Les horreurs existaient déjà avant, malheureusement. C'était même peut-être parfois pire. Aujourd'hui, on a ça dans la face. Et ce qui me fait peur aussi là-dedans, c'est la banalisation. Au début, les vidéos qui étaient postées par ISIS, là, que je voyais passer sur mon Facebook, là, j'ai regardé et j'ai dit « Oh my God !» Sérieusement, là, c'est vraiment des images d'horreur. Là. Puis, je pense avoir le cœur assez solide, là, mais il y a certaines vidéos qui... impossible de finir le visionnement, j'arrêtais ça en cours, là, puis j'essayais de... D'ailleurs, je les regarde de moins en moins, là, c'est ce genre de vidéos-là, parce que c'est une horreur, et j'ai peur qu'on banalise ça. Tu sais, à force d'en voir, oh, ok, tu sais, c'est encore un agent humanitaire, un bénévole d'une organisation humanitaire qui va se faire égorger pour ISIS. Ok, bon, c'est terrible, blabla. Oh, c'est quoi la température pour demain? Tu sais, la banalisation de l'horreur, c'est une des choses qui pourrait nous arriver le pire. Parce qu'après, une fois que l'horreur est banalisée, comme ce qui se passe dans les territoires conquis par l'État islamique, une fois que l'horreur est banalisée, ben, ça nous fait plus rien. On a moins envie de s'en occuper. Ah, déjà, c'est loin, là. Les Kurdes. Ah, c'est quoi, ça, d'abord, un Kurde? Tu sais, il y a beaucoup de monde qui ne savent pas trop ce que c'est. Les Kurdes, ils ont du mal à placer ça sur une carte. Les chrétiens d'Orient, n'en parlons pas. Déjà, c'est des chrétiens, fait que hein, c'est pas toujours bon d'en parler en Occident, des chrétiens. Méchantes bibites, là, qu'il faut éradiquer. Et puis, l'État islamique, ouais, c'est pas d'amalgame. Faut pas confondre avec les musulmans. C'est pas la même chose. C'est un autre sujet, j'aurai l'occasion d'en revenir. Mais c'est pour vous montrer que le danger de banaliser ça, c'est le danger d'oublier. Il faut pas. Et Flanagan contribue un peu à cette banalisation de l'horreur. Chose à méditer, donc. que je vous propose. Si vous avez d'ailleurs des réactions à faire, j'en profite. J'ai fait le tour de ce premier sujet, lourd. Si vous avez des commentaires à faire, si vous voulez réagir à mes propos, que ce soit réagir à ce que je viens de dire ou à ce que je vais dire, n'hésitez pas à m'envoyer vos courriels, vos fichiers audio aussi, si vous voulez que j'inclue dans l'émission vos commentaires. Envoyez-moi tout ça à podcast@quebecpresse.com, podcast@quebecpresse.com. Vous pouvez aussi m'écrire à radioblog@quebecpresse.com, ça fonctionne aussi. Ah, sujet un peu plus léger, hein. On va parler de la rentrée des médias, en particulier de la rentrée des radios. En particulier, la rentrée des radios parlées. Il faut que je vous dise, il faut que je vous avoue quelque chose. J'adore la radio. Pour moi, c'est l'un des plus beaux médias qui existent. C'est l'un des plus vieux, d'ailleurs, après l'écrit, hein. La radio existe depuis des décennies et des décennies. Nos grands-parents, arrière-grands-parents écoutaient la radio sur leur transistor, leur vieux radio à lampe. Et aujourd'hui, bien oui, elle a changé, elle a évolué. Mais en 2015, on aurait pu croire qu'avec Internet, le streaming, les satellites, le câble et tout ça, la radio allait, dans le fond, mourir toute seule, abandonnée. Mais non, en 2015, la radio est toujours là. Je trouve que les radios musicales sont complètement inutiles, mais ça, c'est mon point de vue. Aujourd'hui, avec des iPods, avec même n'importe quel téléphone cellulaire, on peut mettre notre musique. Puis moi, quand j'ai envie d'écouter de la musique, ben, je branche mon iPod. Il y a des radios musicales que j'adorais, comme Chaume, à Montréal, qui diffusent du bon gros rock. Mais du bon gros rock, je l'ai sur mon iPhone. Malheureusement, c'est ça. Peut-être que y a encore un auditoire pour ça. Mais je trouve... Vous écoutez la musique qui vous plaît, a priori, ce qui n'est pas toujours le cas, soit dit en passant, parce que si les radios passaient uniquement la musique qu'on aime, ça serait bien. Mais vous écoutez la musique que vous avez peut-être déjà sur votre iPod ou votre téléphone, mais saucissonner entre de la publicité... la météo, un animateur plate qui fait un concours plate pour gagner un prix plate. Republicité, puis en passant, il y a des embouteillages, on ne sait plus trop où. Non, sérieusement. Qui a envie de subir ça? Je ne comprends pas. Donc, moi, j'écoute la radio parler. Donc, on va parler de la radio, de la rentrée, parce qu'il y a eu quelques petites nouvelles. Je ne veux pas parler de tout ce qui s'est passé dans le paysage radiophonique québécois. Ça serait vraiment trop d'ouvrage. Je vais vous parler, par exemple, de l'arrivée d'Alain Gravel à la radio de Radio-Canada. Je ne suis pas un grand fan de Radio-Canada, vous le savez. Mais je vais quand même en parler parce que c'est pas majeur, mais ça a toujours été un gros combat entre Radio-Canada et puis le 98.5, c'est-à-dire Paul Arcand. À l'époque, Ormier-Roy avait... c'était presque un notable de la radio, il était apprécié, il était quand même écouté, il faisait des scores quand même très honorables face au rouleau compresseur qui est Paul Arcand. Après, il y a eu l'épisode Marie-France Bazot que je trouve, c'est une fille qui est intelligente, là, je veux pas remettre en cause ses capacités, là, mais c'est, tu sais, la personne au bon endroit, au bon moment, ben, c'était pas Marie-France Bazot. C'était pas elle. Ça n'a pas du tout fonctionné. D'ailleurs, elle est partie. Et cette année, depuis cette semaine, Marie-France Bazot a été remplacée par Alain Gravel. Alain Gravel, qui est un journaliste de Radio-Canada, qui est quand même assez connu, qui co-animait l'émission Enquête à Radio-Canada, qui a permis de déterrer quand même pas mal d'affaires. De scandales, entre autres, là, et puis d'affaires bizarres, judiciaires, mais pas seulement. C'est quelqu'un que j'apprécie. Faut pas trop pousser non plus, mais enfin, quelqu'un que j'estime, qui, je pense, a une apparence d'impartialité. On va voir, c'est justement dans ce genre de fauteuil qu'on s'aperçoit que parfois le jupon dépasse pas mal. Mais on va voir, on va lui donner une chance. Bon, j'écoute pas la radio de Radio-Canada, mais je pensais que c'était quand même intéressant d'en parler. De ce que j'ai compris, ça commence mal parce que, à part l'accent radio-canadien qui est particulièrement énervant, voilà qui vous voit des invités qu'il connaît depuis 20 ans, ça part mal. Tu sais, la radio, c'est un média de proximité. Je trouve qu'il y a un contact privilégié avec l'auditeur, donc essayez d'artificiellement de créer une distance, je trouve que c'est un mauvais plan. Tu sais, parce que l'auditeur, ça se sent. Quand tu connais quelqu'un, même quand tu l'invites à la radio, quand tu le connais depuis longtemps, le vouvoie pas. Là, ça se sent que c'est artificiel. Mais bon, ça c'est mon opinion. On verra. On verra les prochains sondages. Je pense que c'est les sondages radio, c'est au mois de novembre qu'ils ont lieu, en tout cas. On verra. Je vous parlais aussi de Choix Radio X Québec. C'est une radio que j'écoute. Ah, la radio poubelle, t'écoutes ça ? Oui, j'écoute Radio X. En général, d'ailleurs, les gens qui parlent de radio poubelle en parlant de Radio X, entre autres, mais il n'y a pas que Radio X, sont des gens qui ne l'ont jamais écouté ou qui ont juste écouté des extraits sortis complètement de leur contexte. Oui, Radio X est une radio d'opinion. Opinions qui sont souvent, pas tout le temps, mais souvent, à droite. Alors évidemment, vu que c'est des opinions de droite, c'est méchant. C'est pas beau. Ça serait une radio de gauche, je suis certain qu'il n'y a personne qui en parlerait, en tout cas pas en des termes comme ceux employés à l'égard de Radio X. Il y a eu des grabuges à Radio X d'ailleurs en passant, hein, mais ça arrive à la télévision, ça arrive à la radio, ça arrive dans la presse écrite. Denis Gravel, qui, à pas confondre avec Alain Gravel dont j'ai parlé tantôt, Denis Gravel qui faisait l'émission du matin avec Jérôme Landry se retrouve au retour, donc je pense vers le 15h. Jérôme Landry a quitté Radio X un peu en claquant la porte. Ah, il a quitté, mais il est toujours sous contrat, c'est un peu bizarre. Lui qui disait qu'il était marié à Radio X. Mais bon, regarde, je suis pas dans le secret des dieux. Je saurais pas dire exactement ce qui s'est passé. Et puis, qui prend la case horaire, qui devient le morning man à Radio X, c'est Dominique Moret. Et puis là, je suis très content, parce qu'il devait aller à la case horaire du midi, puis le midi, moi, j'écoute pas la radio. Par contre, le matin, pour me réveiller, pour avoir les dernières nouvelles, j'aime écouter la radio, puis j'aimais écouter le show du matin avec Denis Gravel et Jérôme Landry. Il se trouve que finalement, Dominique Moret devient morning man et moi je l'adore. Sérieusement, c'est un des meilleurs animateurs, peut-être même, mais je suis pas très objectif, peut-être même le meilleur animateur radio que je connaisse. Il le dit lui-même, bah pas trop souvent, mais il l'a déjà dit, qu'il s'inspire un peu de Gilles Proulx. Tu sais, il y a un côté baveux, un côté beaucoup d'humour aussi. Et puis, il y a ces chroniqueurs traditionnels, comme Denis Bombardier, comme Jacques Brassard, il y a aussi Richard Martineau, Sophie Desrochers, ces animateurs, enfin ces chroniqueurs réguliers qui donc font partie de son émission. Puis, ce que j'apprécie énormément à Radio X, contrairement, moi j'ai écouté pendant des années, de nombreuses années, j'écoutais Paul Arcand. Puis Paul Arcand, personnellement, je trouve que c'est un très bon morning man, un très bon intervieweur. Il fait de très très bonnes entrevues. Il a une bonne voix de radio, là. Je pourrais presque en être jaloux d'ailleurs. Et puis j'aimais son émission, sérieusement, et puis il y avait des chroniqueurs intéressants. Mais c'est un peu ce que je vous disais tantôt là, au sujet des radios musicales. Des publicités aux 7 minutes, la météo 15 fois par heure, le pont Champlain est toujours bloqué. Oui, toujours bloqué. Oh. Tu sais, je comprends. Ceux qui sont dans le trafic, ils sont bien contents d'avoir les nouvelles du trafic. Mais pour du monde qui écoute la radio au travail ou à la maison, sérieusement, de savoir ce qui se passe sur le pont Champlain, là. Excusez. Je vais sortir un sacre. Justement, je m'en sacre. Et ce qui est bien avec Radio X, c'est qu'il y a quand même, bon, il y a de la publicité, c'est une radio privée, mais beaucoup moins que, et beaucoup moins fréquemment surtout qu'au 98.5 à Montréal. Et puis, bah oui, ça parle de météo le matin, mais la circulation, à part s'il y a vraiment un gros problème, je sais pas si vous connaissez la ville de Québec, là, mais pour qu'il y ait un gros embouteillage à Québec, c'est parce que soit il y a une grosse tempête de neige, soit il y a un accident majeur. Donc, on n'est pas embêté avec ça. Anyway, s'il y a de la congestion sur Grande Allée, là aussi, je serais tenté de dire « What ?» M'en fous. Tu sais. Donc, j'écoute Dominique Moret. Il y a Richard Martineau qui fait aussi son entrée à Radio X Québec entre midi et deux, je pense, de mémoire. Le retour d'André Arthur. André Arthur, un autre qui a toute une voix de radio. Je pense qu'il a une chronique d'à peu près une demi-heure entre 11h30 et midi, mais j'ai pas eu l'occasion de l'écouter en direct. J'écoute un peu les reprises très tôt le matin. Et puis, il y a Pee-wee. Pee-wee qui anime une émission entre 5h et 5h30 le matin. Oui, ça, c'est pour les très lève-tôt comme moi. Et émission drôle, amusante. Une entrée en matière, un bon réveil, sans prétention, avant l'arrivée de Dominique Moret et puis des dossiers sérieux. Enfin, pour finir cette chronique média rentrée de radiophonique, je vais vous parler d'une... Moi, ce que je trouve une très bonne nouvelle. En 2011, je suis devenu un peu orphelin. En 2011, je pense que c'était au mois de mai ou au mois de juin, là, de mémoire, mais ça n'a pas d'importance. En 2011, une radio a fermé. Et des milliers, j'en suis convaincu, un grand nombre de Montréalais, mais aussi de Québécois, puisque c'était diffusé sur la bande AM, sont devenus orphelins comme moi. En 2011, la seule radio sportive au Québec fermait ses portes. CKAC Sport fermait. Remplacée par une pauvre station de circulation que j'ai dû écouter une fois depuis 2011. Bah, vous allez me dire, je chauffe pas. Oui, c'est sûr, ça aide, mais... Oui, effectivement. Peut-être que écrivez-moi si vous écoutez souvent Circulation 790, quelque chose de même. Qu'importe. Mais bon, ok. Admettons. Il y a une certaine utilité d'avoir une radio de circulation 24 heures sur 24. Bon, quoique entre vous et moi, à 4 heures le matin... même sur Sainte-Catherine, à mon avis, ça doit bien circuler. À mon avis, on doit être juste peut-être un peu embêté par les taxis qui s'arrêtent et puis qui prennent du monde, qui finissent leur soirée, qui veulent rentrer chez eux. Mais à part ça. Mais sérieusement, une ville comme Montréal, qui a quand même plusieurs équipes dans le sport majeur, le Canadien de Montréal évidemment, mais aussi l'Impact... J'ai beau haïr le soccer, c'est quand même une ligue majeure. Le Grand Prix du Canada, qui est quand même un événement majeur dans le circuit de la Formule 1. La Coupe Rogers. Y a quand même des amateurs de sport au Québec et à Montréal. Et puis, ne pas avoir une station de sport, sérieusement, ça manquait. Alors que Toronto a sa station de sport, Vancouver a sa station de sport, il y a une station sportive à Montréal, anglophone. Pourquoi il n'y a pas son pendant francophone? C'était, je ne sais pas ce qui s'est passé, je sais que Corus a vendu, entre autres, le 98.5 et CKAC à Cogeco. Cogeco a décidé de tirer la plug pour CKAC Sport. Bon, ben voilà, on sait tous, c'est fait. Donc, quelle fut ma joie de voir arriver une nouvelle station sportive. Puis entre vous et moi, ça n'a pas été évident. Hein. On parle du 91.9. Rétrospective du 91.9 de ces dernières années. Le 91.9, c'était d'abord Couleur Jazz. Puis ça a été Planète Jazz. Ensuite, Radio X Montréal. Bon, ça n'a pas pogné pantoute. C'est devenu Radio 9 pour devenir cette année 91.9 Sport. Sport, pas de S en passant. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas. Bon, enfin, j'espère que ça ne va pas changer l'année prochaine. Mais à mon avis, ça va connaître un certain succès, en particulier quand la saison de hockey va reprendre. Puis, il y a quand même des bons joueurs. J'étais quand même heureux de retrouver Michel Langevin. Je sais qu'il y en a qui ne l'aiment pas, mais moi, je le trouve correct. Là. C'est sûr que je ne suis pas toujours d'accord avec Michel Langevin. Puis c'est normal, c'est même plutôt sain de ne pas être d'accord à 100% avec un animateur radio. Après tout, c'est un animateur radio. Moi, je suis un podcaster. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ben, c'est pas grave. C'est peut-être même bon signe, pourquoi pas. Ah, soyons fous. Michel Langevin qui anime, j'allais dire Sport du lit, mais ça c'était l'émission qu'il animait le matin à CKAC Sport. J'ai oublié le titre de son émission, mais c'est pas grave. L'émission du matin qui commence à 6h, je pense, jusqu'à de 6 à 10, il l'anime avec Enrico Ciccone. Puis je suis content de le revoir, Enrico, parce que je l'avais bien aimé à TVA Sport. Je sais que ça fitait pas avec l'équipe de TVA Sport, qui a eu des dissensions, puis que finalement, on lui a dit de partir. Mais je suis bien content parce que c'était un des rares qui avait de l'allure à TVA Sport. Et j'étais déçu qu'on garde quelqu'un comme Patrice Brisebois, qui est pas capable de faire une seule phrase simple, sans faute, qui est incapable de bien s'exprimer, d'avoir la bonne tonalité. C'est une horreur. Lui, on le garde, par exemple. Brise, là, on le garde. Mais Enrico Ciccone, qui s'exprimait bien, qui il s'améliorait bien, il avait des choses à dire. C'est quelqu'un qui a du caractère, un ancien joueur de hockey qui était quand même un joueur physique. Bon, il fit bien dans son rôle. Ben non, on décide qu'il ne fait plus l'affaire. Bon, ben c'est pas grave, on le retrouve au 91.9 Sport à Montréal. Bien content de le voir là. L'émission du matin, je l'ai écouté ce matin, c'était la première de l'émission du matin dont je me souviens toujours pas du nom, mais c'est bon, ça a pas une grande importance. Et sérieusement, je sais pas s'ils sont pratiqués avant, mais ça a pas paru que c'était leur première émission, à part des problèmes techniques et autres, mais je l'ai pas écouté non plus de 6h à 10h. J'ai quand même des choses à faire dans la vie. Et surtout qu'il n'y a pas de hockey, fait que c'est. Tu sais, de parler du congédiement de l'entraîneur de l'Impact. Ouais. Mais c'était quand même intéressant. J'ai eu du plaisir à écouter ça. Et puis, c'est le fun. Tu sais, on peut écouter ça d'une oreille. Et puis, c'est pas bien grave. Hein, c'est juste du sport. Malheureusement, on retrouve des gens comme Jean-Charles Lajoie. La joie, là, je sais pas vous, mais je suis pas capable. C'est le gars qui, ouais, il a des tournures de français qui sont parfois intéressantes. Il fait quand même des fautes, mais bon, tout le monde peut en faire, c'est pas plus grave que ça. Mais il se prend tellement au sérieux, puis sa façon de créer des nouvelles, là, c'est de la controverse gratuite. Il n'a pas changé. Hein. J'écoutais ce matin, je disais, oh non, c'est les mêmes affaires. C'est pas grave. Vous pouvez aller d'ailleurs en passant sur le site de québecpresse.com. Allez voir, faites une recherche Jean-Charles Lajoie ou 98.5. Il y a une entrevue qu'il a faite à l'époque du Trizac, quand il y avait une chronique à son émission le midi. Écoutez ça, c'est assez édifiant. Puis vous allez comprendre un peu le personnage. Oh, il y a Georges Larac aussi. Le gars qui s'est fait virer du Canadien de Montréal à tel point qu'il fallait même plus qu'il mette les pieds dans le vestiaire, même s'il était encore payé, tu sais, c'est pour vous dire. Il était apprécié. Il y a quand même de bonnes nouvelles. Il y a Bob Hartley qui va faire une chronique le lundi matin ou après-midi. Lui, très bon, très coloré. Vous connaissez Bob Hartley. C'est pas, malheureusement pas le niveau du regretté Pat Burns, sérieusement, je l'adorais avec l'après-midi. C'était pas tous les après-midi, je pense. Enfin, peut-être qu'il était déjà malade à cette époque-là, mais avec Michel Villeneuve. Michel Villeneuve, d'ailleurs, que j'ai entendu au 91.9, quelqu'un qui des fois est détesté. Et puis, moi j'aime ça, son côté un peu baveux, j'aimais ça, Michel Villeneuve. J'espère qu'il aura un rôle un peu plus important qu'un simple chroniqueur au 91.9 Sport. On verra, on verra. Bon, on a fait le tour, il y a certainement d'autres nouvelles dans le monde des médias et de la radio, je vous en parlerai sans doute dans des prochains épisodes. Je vous parlerai aussi certainement de ce que j'ai aimé en termes de téléséries, de films, cinéma, j'aime ça aussi, de parler de différents sujets, pas juste de la politique. En attendant, on va parler d'un sujet un peu plus grave. On va parler de la loi 59. Qu'est-ce que la loi 59 d'abord ? La loi 59, c'est une loi, un projet de loi provincial, donc du gouvernement Couillard, qui vise à criminaliser, dans le fond, le langage qui pourrait paraître offensant. Je résume, je n'ai pas lu l'intégralité du projet de loi, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'en clair, prenons un exemple, au hasard. Mettons qu'un podcaster québécois enregistre une émission. Puis dans cette émission, il parle d'une certaine catégorie de personnes ou il parle d'un individu. Que cet individu s'estime, ou cette catégorie d'individus, s'estime insulté, pourrait porter plainte, et grâce ou à cause de la loi 59, celui qui a enregistré l'émission, le podcaster, ou l'animateur radio, télévision, le chroniqueur au Journal de Montréal ou à la presse, pourrait se faire poursuivre à cause de ses propos, parce qu'il aurait offensé une personne, une ou des personnes. C'est une loi dangereuse, très dangereuse et inutile. À l'heure où je vous parle, on est lundi le 31 août, a priori, le gouvernement Couillard aurait reculé sur un certain nombre d'informations, un certain nombre de choses de la loi 59. On attend de voir exactement à quoi ça ressemblera, le contenu modifié. Mais apparemment, suite au... Il y a eu, comme dans un certain nombre de projets de loi, on demande à des spécialistes ou à des gens d'intervenir, donner leur avis sur le projet de loi. Et puis, il y a une certaine unanimité contre la loi 59. Que ce soit à droite comme à gauche, les gens sont contre. Les seuls, à date, qui semblent soutenir la loi 59, c'est des organisations extrémistes. Tiens donc, comme c'est curieux. Moi, une loi qui vise à protéger, dans le fond, ou qui semble satisfaire uniquement des extrémistes, en partant, il faut s'interroger. Une des rares fois, j'ai écouté, je pense d'ailleurs, c'était Dominique Moret qui l'avait invité à son émission, Maître Julius Gray. Je suis jamais de l'avis de Julius Gray. C'est jamais arrivé. Peut-être que je ne connais pas tout ce qu'il pense, là. Peut-être que j'ai beaucoup plus de points communs que j'imagine avec Julius Gray, là. Mais ça ne m'est jamais arrivé. Sauf cette fois. Julius Gray avait de très très bons arguments contre la loi 59. Criminaliser, dans le fond, c'est criminaliser des propos controversés. Mais justement, il faut, dans une société libre, il faut pouvoir tenir des propos controversés. C'est quelque chose de sain. Une loi qui criminalise certains propos, d'abord c'est inutile parce que s'il y a des propos véritablement haineux, il existe déjà des lois pour les punir, pour punir leurs auteurs. On peut pas inciter au meurtre, on peut pas inciter au viol, on peut pas demander ou dire qu'il faut poser des bombes. Je sais pas moi, dans des mosquées ou dans des synagogues, on ne peut pas dire ça. C'est déjà un motif pour se faire poursuivre. Pourquoi faire une loi alors qu'il en existe déjà et qui font très bien l'affaire? C'est pas comme s'il y avait un débordement verbal au Québec. Comparé ce qu'on peut dire ici avec ce qui se dit par exemple en Europe. Excusez-le. Il y en a qui sont tombés de haut quand ils ont découvert de quoi on traitait dans Charlie Hebdo au Québec. On ne connaissait pas Charlie Hebdo. C'est une calamité, quelque chose d'effroyable qui s'est produit au mois de janvier dernier dans les locaux de Charlie Hebdo. Genre, je parle même pas de ça. Mais là, tout le monde était Charlie, hein, évidemment. Tout le monde était Charlie. Tout le monde a voulu acheter Charlie Hebdo. Là, au Québec, on ne connaissait pas trop Charlie Hebdo. Là, le monde est... My God, ça parle de... Oh my... Il y en a, je vous le dis, ils sont tombés de haut. Ils se sont dit, ouais, finalement, je suis Charlie, je vais peut-être l'enlever là, de mon profil. C'est terrible ce qui s'est passé, mais en même temps, on n'est pas habitué ici. C'est beaucoup plus soft, beaucoup plus conciliant, on va dire. Il n'y a pas d'urgence donc à faire, à rajouter une loi pour, soi-disant, poursuivre des gens qui tiendraient des propos offensants, sérieusement. Ce qui risque de se passer, c'est que les gens, pour la plupart, les gens sont prudents. Donc, s'ils sont prudents, ben, ils vont simplement se taire. Ils vont se taire parce qu'ils vont avoir peur de s'exprimer, parce qu'ils vont avoir peur de se faire poursuivre par du monde qui... au restaurant, là, je vous ai entendu. Vous avez parlé de telle personne. Puis ça, je trouve ça offensant. Je vais vous poursuivre. Je sais. J'exagère. Ben, j'espère que j'exagère. Mais il ne faut pas que ça en vienne là. C'est inutile. Il faut laisser, tu sais, la liberté d'expression. Moi, je suis pour une liberté totale d'expression. Bon. Ou presque totale. Il y a peut-être des choses qu'il faut quand même encadrer, mais il faut que le cadre soit quand même assez large. Parce que, vous savez, on est toujours les fascistes de quelqu'un. On est toujours les extrémistes de quelqu'un. On a toujours des propos scandaleux pour certaines personnes. À un moment donné, on ne peut pas toujours, on peut pas toujours avoir des propos sans controverse. Il y a toujours un moment donné, tu sais, je sais que je vais prendre un exemple un peu farfelu, mais on est à Montréal après tout. Mais le nombre de choses qu'on peut entendre à l'encontre de l'entraîneur du Canadien de Montréal, c'est impressionnant des fois. Ah, c'est les noms d'oiseaux, les sacres, et puis c'est un incapable. Tu sais, est-ce que ça voudrait dire que dans le fond, l'organisation du Canadien pourrait poursuivre un chroniqueur, je sais pas moi, comme Régent Tremblay, ou un partisan qui serait parti en colère du Centre Bell après une défaite contre la Floride? Il faut se poser ces questions-là. Même si... Je le répète, c'est un peu tiré par les cheveux. Si on laisse passer ce genre de loi, la société québécoise va se refroidir. Parce que là, tout le monde va dire à peu près les mêmes choses. Tout le monde va être d'accord sur toutes. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Le ciel est bleu. Ah oui, mais y a des gens qui aiment les nuages. Tes propos sont pas mal offensants. Ok, je vais me taire. La société va devenir lisse, sans couleur, sans saveur, plate. Comment pourraient émerger des idées nouvelles dans une société comme ça? Pensez-y. Ça faisait un peu RBO mon affaire, hein. Pensez-y. Mais sérieusement, pensez-y. Des idées nouvelles, des opinions nouvelles, des façons différentes de faire bousculent toujours un peu les certitudes. Des génies, qu'ils soient dans le domaine de la littérature, des inventions médicales, électroniques, scientifiques, qu'importe. Par principe, ce sont des gens qui bousculent des certitudes. Parce qu'il propose quelque chose de nouveau. Avec une loi 59, si on était à l'époque de, je sais pas moi, Galilée, Oui, c'est vrai, on l'a un peu maltraité déjà à l'époque, mais vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui arrive avec des idées différentes, des idées qui sortent des sentiers battus, outre le fait qu'il va être plus facilement stigmatisé, il risque d'être poursuivi parce qu'il ne pense pas comme les autres. Et ça pourrait être vous, à un moment donné. Ça pourrait être vous qui, parce que vous avez une conception différente, vous allez passer pour un hérétique. Un hérétique aux yeux de l'État, du gouvernement québécois. C'est pour ça qu'il est important de vraiment dénoncer la loi 59, et puis c'est pour ça que je tenais à en parler aujourd'hui avec vous. Pareil, même chose, commentaires, questions, suggestions. podcast@quebecpresse.com podcast@quebecpresse.com Waouh, on est rendu à 46 minutes. Ça veut dire que j'ai été moins long que la semaine dernière et que je vais avoir du temps pour vous parler de quelques petites brèves. Et puis, Oh my God! Ça veut dire que je vais avoir du temps de vous parler des élections fédérales. Alors, si on parle des élections fédérales, il faut sortir le thème. Et oui, élection provinciale, je vais vous parler donc du défilé de la fierté gay à Montréal. C'est quoi le rapport avec les élections fédérales, allez-vous me dire? Le défilé de la fierté gay, figurez-vous, à Montréal, c'est aussi le défilé des hommes politiques qui veulent se montrer devant les médias, les caméras, faire un coucou et montrer à quel point ce sont des gens tellement tolérants. Et comme à chaque année, les partis d'opposition se sont plaints de l'absence de Stephen Harper, ce premier ministre conservateur, insistons bien sur le fait qu'il est conservateur, donc de droite, la méchante droite. Il n'est pas là au défilé de la fierté gay, donc pour lui, selon Thomas Mulcair, le politicien double face, et puis, comment il s'appelle, Justin ? Selon eux, il ne prend pas suffisamment à cœur le destin, je ne sais pas comment trop le dire, enfin en tout cas, il ne prend pas suffisamment à cœur une partie de ses concitoyens qui sont de la communauté homosexuelle. Mais là, je m'interroge. ISIS, donc l'État islamique, s'en prend aux homosexuels, s'en prend très violemment aux homosexuels. Ils ont, pour eux, il y a un de leurs jeux préférés qu'ils font avec les homosexuels là-bas, c'est qu'ils les balancent dans le vide, vivants évidemment, ils ne sont pas encore morts, ils les balancent dans le vide du haut des toits d'immeubles dans leur coin. Là. Bon, c'est pas des gratte-ciels, mais quand même, en général, ils meurent. Puis s'ils ne sont pas morts, il y a toujours du monde en bas pour leur envoyer des pierres, des roches sur le crâne, et c'est épouvantable. Sérieusement, on fait bien des jokes, là, mais c'est épouvantable ce qui se passe pour les enfants, les femmes, les pères de famille qui sont assassinés par l'État islamique, mais aussi pour la communauté homosexuelle. Stephen Harper, lui, depuis plusieurs mois, a décidé de prendre action contre ISIS. Il y a des F-18, plutôt des CF-18, qui sont envoyés là-bas, en Irak, pour pilonner des positions de l'État islamique. Il a pris action pour vraiment défendre des homosexuels qui se font assassiner. Au Canada, à Montréal, je ne dis pas que la communauté homosexuelle ne subit pas, qu'il n'y a personne qui subit peut-être des remontrances ou certaines violences morales. Mais on s'entend que ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe en Irak. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Syrie. Ça n'a même rien à voir avec des États qui ne sont pas en guerre, comme pas mal d'États arabo-musulmans. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y en a un qui prend véritablement action par les faits pour défendre les minorités, qu'elles soient homosexuelles ou pas, d'ailleurs, en passant. Il prend action, ses actes prouvent qu'il a la volonté de protéger les minorités kurdes, chrétiennes d'Orient, homosexuelles. Puis de l'autre côté, vous avez Merkel et Trudeau qui sont contre l'intervention canadienne contre ISIS. Donc dans le fond, pour eux, c'est beaucoup plus important de manifester à la Gay Pride, à la fierté gay à Montréal, que de défendre des homosexuels qui se font assassiner par l'État islamique en Irak et en Syrie. Quand même curieux. Ah, eh oui. Oui, ça passe vite. C'est pas tout à fait une heure, mais on va dire qu'on préfère la qualité à la quantité. On se retrouve la semaine prochaine. Eh oui, j'ai brûlé le punch, il y aura une émission la semaine prochaine, figurez-vous. Eh oui, juste pour vous. Ok, pour toi aussi, dans le fond. En plus, c'est la fin de semaine de 3 jours, la fête du travail. Ça va être un super podcast, j'en suis sûr. Je vous rappelle les adresses pour nous rejoindre. Il y a d'abord le site internet, quebecpresse.com. Il y a aussi, d'ailleurs, sur ce site, il y a une rubrique « Contact ». Vous pouvez envoyer vos messages à partir de cette rubrique. Vous pouvez aussi m'écrire directement à podcast@quebecpresse.com ou radioblog@quebecpresse.com. Oui, on se laisse en musique, comme à chaque fois, comme si ça faisait 150 émissions qu'on faisait ensemble. Mais j'aime ça, finir en musique. Un groupe que j'adore, les Rolling Stones, c'est pour rendre hommage à Windows 95, figurez-vous. Eh oui, tout arrive. Non, sérieusement, j'ai beau aimer les Mac, je reconnais une chose, c'est que Windows 95 a permis de rattraper le considérable retard qu'avait Windows sur le système d'exploitation sous Mac. Et Bill Gates, lorsqu'il a présenté son nouveau système d'exploitation, l'a fait sur cette musique, Start Me Up, des Rolling Stones. On se retrouve donc la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. On se retrouve tous en forme, sans faute, dans une semaine. Ciao.